Chapitre 46. Ravine cadavre. 16h14. La ravine sèche du quartier de l'Île Paradis est un égout à ciel ouvert, où les habitants jettent des objets inutiles et sales. Des bidons rouillés, des pneus crevés, un téléviseur sans écran, des journaux moisis, des dizaines de bouteilles vides, un divan éventré, de la mousse, du carton, du fer, du verre, des excréments, une bouillie immonde charriée des hauts vers l'océan par chaque orage. Des cadavres de chats aussi, de chiens, de rats. Le cadavre d'Imelda. Balancez-la, comme une ordure de plus. Christos est descendu dans la ravine, les deux pieds dans la boue infâme. Il tient le corps déjà froid contre son cœur. Il a des envies de meurtre, de bombe, de lave en fusion. L'envie d'être un dieu, de faire pleuvoir 40 jours, de pleurer une éternité, de souffler et de déclencher un raz-de-marée, de raser l'île d'un coup de rabot pour que des tonnes de flottes, de terre et de merde de la côte au vent se déversent sur l'autre rive, d'engloutir toutes les couleurs de peau, toutes les races, tous les pauvres types des cases comme des villas. Sur le trottoir qui domine la ravine, Moussa Dijou n'ose pas prononcer un mot. Son grand sourire complice s'est figé dès qu'il a vu Christos descendre du pick-up Mazda de la gendarmerie. Courir. Tendre sa carte de flic et fendre la foule. Hurler à la mort comme un chien. Christos s'agenouille. Il perd ses mains dans les longs cheveux crépus d'Imelda. Comme un monstre endormi qui se réveille, son instinct de chien de chasse émerge d'un long hiver. Toutes les questions qu'il se pose se heurtent à des parois de verre. Qui a pu tuer Imelda? Pourquoi? Qu'est-elle venue faire dans ce quartier pourri, quasiment en sortant de la gendarmerie de Saint-Gilles, juste après l'avoir quittée? Que vont devenir les enfants? Le flic tente de chasser l'image des cinq gosses. Le regard fier de Nazir, les jambes de tec-tec de Dorian qui moulinent dans son short trop grand. La concentration timide d'Amic derrière ses lunettes tordues. Le rire cascade de Jolie qui bascule sur ses genoux. Les grands yeux ronds de Dolène dans son long dos. Cinq gosses qu'il va devoir prévenir. Qui a pu tuer une mère de famille qui aimait tant l'amour? La foule grandit au-dessus de la ravine. Des vieilles sous leur chapeau de paille. Des gosses la morve au nez et le t-shirt déchiré. Des créoles qui se lamentent. Et d'autres qui ricanent. Tous doivent prendre Imelda pour une mère victime d'un mari violent, banal, même si les larmes de ce flic les intriguent. Dijou tend une main amicale. Viens, Christos, attrape ma main. Tu peux pas la ressusciter. Christos ne bouge pas. Il cherche son portable dans sa poche. Il doit appeler Nazir. C'est lui le plus grand. Il devra s'occuper des garçons et de Jolie. De la petite Dolène aussi. Les doigts de Christos tâtent un paquet de plastique mou et identifient le sachet de Zamal confisqué à Nazir ce matin. Imelda y tenait. Elle s'était postée dès 6h devant la porte de la case et n'avait laissé sortir Christos que quand il l'avait trouvée, facilement, sous le matelas. Nazir, 15 ans. Fumeur de cannabis. Vendeur aussi. Orphelin. Responsable de 4 frères et sœurs. Déjà faudrait-il qu'il soit responsable de lui-même, qu'il ne passe pas à la coke pour commencer. Christos pense à la petite Jolie dans sa robe de princesse que lui cousait sa mère. À Amic, à qui Imelda avait promis de descendre voir la mère dès qu'il ferait du vélo à 2 roues. Il pense aux plats que les gosses ne mangeront plus et aux légumes qui vont pourrir dans le jardin. À la case, qui va tomber en ruine. Christos se dit sans y croire que les gosses ont peut-être un oncle, un cousin, un adulte au moins sur qui compter. Qu'il y a l'État-providence aussi. La main emprisonne le téléphone portable. Il l'approche de sa bouche. Il ne sait pas ce qu'il va raconter à Nazir. Il ne sait pas qui va décrocher. Il se demande si téléphoner est une bonne idée. Aura-t-il seulement un jour le courage de retourner à la case d'Imelda? Ses yeux clignent lorsqu'il croise l'écran du téléphone. Il a reçu un appel. Il fait apparaître du pouce le nom du correspondant. Aja. Ce n'est pas un appel qu'il n'a pas entendu, mais 5, plus un texto. Rappelle-moi, bordel. Machinalement, Christos rappelle. Une fuite de plus. La voix stridente d'Aja explose à son oreille.
Christos, putain de merde, qu'est-ce que tu fous? J'ai appelé 20 fois au standard de la gendarmerie, t'es où, bordel? J'ai besoin de toi, urgence absolue!
Vas-y, je t'écoute. Aja marque un silence, comme surprise par la docilité de son adjoint.
Le gérant de l'agence ITC Tropical a appelé. Il vient de retrouver la voiture de location de Martial Bellion. Dis, Christos, ça va? T'as une drôle de voix?
Te bile pas pour moi, Aja. Je tiens le coup.
T'es sûr? Je te sens pas, là. T'es où? Y a un autre problème?
Christos hausse le ton. Plus tard, Aja. Continue avec ta bagnole de location.
Tu ne devineras jamais où le gérant a retrouvé la Clio. Cet enfoiré de Bellion l'avait garée sur le parking de l'agence, au milieu des autres bagnoles de location. Avenue de Bourbon, à moins de 300 mètres de l'hôtel. S'il n'avait pas eu de retour de client il y a une heure, le type s'en sera aperçu que demain. T'en penses quoi? Dis, t'es là, Christos?
Ouais.
T'es sous amal ou quoi?
J'y vais, Aja. Te bile pas.
Ok, fonce. Je te fais confiance pour faire parler cette foutue bagnole.
Une dernière chose, Chris.
Quoi?
Je te connais, mon grand. Il y a un truc qui cloche, là. Je sais pas quoi. Je vais pas te faire chier si tu ne veux pas en parler, mais tu me fais juste la promesse de faire gaffe. Je tiens à toi.
Merci, ma belle. Ça me touche.
Il raccroche. Le chien de chasse renifle la piste. Imelda a été tuée après avoir consulté à la gendarmerie tous les dossiers de l'affaire Bellion. Poignardée, comme Rodin, comme Chantal Letellier. Sauf que pour le meurtre d'Imelda, Martial Bellion possède un alibi en béton. Il cavalait sur la plaine des sables. Une trentaine de flics assermentés peuvent témoigner pour lui. La conclusion s'impose. Ce n'est pas Bellion qui a tué Rodin, ni Chantal Letellier. Le véritable meurtrier se promène en liberté dans l'île. Ce type qui a enfoncé un couteau dans le cœur d'Imelda. Christos coupe le rideau de badaud comme un taré qui foncerait en voiture dans une foule de mômes. Il démarre. Les pneus du pick-up Mazda crissent. Le gyrophare hurle. Les virages s'enchaînent dans une odeur de gomme chaude. Les bagnoles qui montent de Saint-Louis s'écartent prudemment. Le paysage s'ouvre, puis se ferme à chaque tournant. Les tours colorées sont balayées telles des quilles. Le minaret bleu de la mosquée, le clocher blanc de l'église, les monstres grimaçants du toit du temple du Gol, comme autant de charlatans auxquels Christos claque la porte au nez. Le pick-up rase les étals de fruits. Les passants sur les trottoirs coupent les trajectoires. Il peut bien rater un virage. Les freins peuvent bien lâcher. Ils sont fous.